ラフトレ
Bonjour et bienvenue dans Jaftamer numéro 49 avec Stéphane sur RLP. Aujourd'hui, nous avons avec nous un dessinateur de talent. Vous avez peut-être tous croisé le livre Le lion qui avait perdu sa queue, ainsi que L'aventure de Raph, Le guide du papa pas parfait et une bande dessinée qui sort très bientôt qui s'appelle Je suis papa, 28 jours pour trouver ses marques. Eh bien, c'est Yannick qui sera avec nous dans une interview en 5 parties. Qui nous expliquera comment cette aventure a démarré, ce qui l'a poussé à aller vers la caricature, le dessin humoristique, la bande dessinée, avec ses complices du moment. Tout ceci après une intervention de Thierry Lavergne pour un nouvel espace de parentalité, cette fois-ci consacré à l'estime de soi. L'estime de soi qui est extrêmement important pour les enfants. Voilà ce qu'il faut faire pour que son enfant, ses enfants, aient confiance en eux, aient de l'estime pour eux. Ne bougez pas, c'est tout de suite après ça.
RLP, Radio Libre en Périgord.
Thierry Lavergne aujourd'hui sur RLP pour la minute pédopsychiatrie, psychanalyse de l'enfant. Monsieur Lavergne, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis là. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde.
Bonjour, merci de vos conseils éclairés. Aujourd'hui, un point qui intéressera énormément de parents. Comment aider à renforcer l'estime de soi de son enfant pour qu'il puisse aller affronter notre monde ?
Oui, écoutez, il n'y a pas de recette miracle pour renforcer l'estime de soi.
Mais c'est important contre, déjà.
Ah oui, c'est très important. Et c'est très important qu'un enfant ait une bonne estime de lui ou une estime de lui, comment dirais-je, qu'il est confronté à... que son estime de lui soit confrontée au regard des autres et qu'il puisse supporter le regard des autres sans se sentir détruit. Et ça, c'est quelque chose qui se commence très tôt. Avec un lien social finalement qu'on peut commencer à la maternelle et même quelquefois avant à la crèche. Les conseils que je peux donner là-dessus, c'est que il s'agit toujours d'aider l'enfant à comprendre ou à prendre de la distance par rapport à une situation dans laquelle il s'est senti humilié ou bien dans laquelle il s'est senti dominé ou bien dans laquelle il s'est senti mis à l'écart, voilà. Ne jamais banaliser, toujours écouter, et c'est pas forcément bon non plus de prendre systématiquement, parce qu'on serait tenté peut-être à travers ce que je dis d'entendre ça, c'est pas forcément bon de prendre systématiquement la défense de l'enfant, c'est pas ça le sujet, c'est pas de dire mon enfant a raison et de... pas du tout. La meilleure aide qu'on peut donner à l'enfant, c'est de donner des clés, des explications. Ah, mais c'est passé ça parce que... Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment ça s'est passé? Veux-tu que j'en parle avec la maîtresse? Et bien, peut-être que je peux rencontrer les parents de cet enfant, etc. Dans quelque situation que ce soit, il faut surtout que l'enfant ne se sente pas abandonné. Il faut qu'il se sente soutenu, mais pas soutenu bêtement, c'est-à-dire tout ce que tu fais est bien, pas du tout. Soutenu au sens où on va soutenir la place qu'il a essayé de tenir, qu'il n'a pas réussi à tenir et essayer de comprendre comment il pourrait faire pour la tenir mieux une prochaine fois.
À l'opposé, on va éviter les reproches systématiques qui, même si on a l'impression que c'est pour l'aider à grandir et le pousser, pour les devoirs, parce qu'il oublie trop de choses et autres, il ne faut pas le rabrouer tout le temps. Il faut le pousser vers l'autonomie, mais en lui donnant de la satisfaction intérieure un petit peu peut-être.
C'est un bon exemple, par exemple. Oui, en effet, l'école en soi peut avoir tendance, par son fonctionnement même, un peu culturel et puis scolaire, pédagogique, peut avoir tendance à diminuer l'estime de soi parce que on va plutôt corriger les fautes à l'école que corriger les fautes d'orthographe, corriger les fautes, la façon d'écrire, corriger les fautes plutôt que valoriser finalement la créativité ou ce que l'enfant aura réussi spontanément très bien. Ça fait partie un petit peu du fonctionnement scolaire. L'idée, c'est qu'effectivement, le parent peut accompagner les résultats scolaires ou les devoirs en aidant l'enfant à trouver lui-même la solution et en le félicitant quand il y arrive. Ça prend plus de temps que de corriger les fautes. Voilà pourquoi, très souvent, il y a ce genre d'attitude un petit peu culpabilisante et qui a tendance à diminuer l'estime de soi, plutôt qu'une attitude qui va rechercher la possibilité pour l'enfant de trouver lui-même la solution et donc de trouver finalement le plaisir de trouver en lui quelque chose qu'il réussit et de pouvoir être félicité et du coup d'avoir une bonne estime de lui qu'il va d'ailleurs garder toute sa vie après.
Et oui, trouver des solutions par soi-même, réussir par soi-même, le sport peut aider à cela et cela donne à son enfant de la confiance pour relever des nouveaux défis qui arrivent.
Il y a plein de choses qui peuvent aider le lien social avec les autres. Et surtout aussi, il est nécessaire que l'enfant accepte d'être accompagné dans la réflexion sur un problème et qu'un problème puisse ne pas être résolu tout de suite et qu'il puisse être accompagné. Mais l'accompagnement ne doit jamais être, comment dire, il faut s'arranger pour que l'accompagnement ne soit jamais vécu par l'enfant comme un accompagnement humiliant.
Ce n'est pas intrusif, c'est ça ?
Voilà, un accompagnement qui va l'aider à trouver la solution. Qui va lui dire « Ah non, là, tu pourrais peut-être essayer de regarder par là, ou faire comme ça, ou que dirais-tu si tu pensais que si on faisait comme ça ?»
Mais on ne le fait pas à sa place, en fait.
Tu n'y arrives pas, pose l'addition, et puis essaye comme ça, par exemple. Enfin, des choses toutes simples, hein. Mais voilà, éviter de faire les choses à la place de l'enfant, et éviter de lui montrer qu'on a tendance à être meilleur que lui, c'est normal. Qu'on soit meilleur que lui, c'est pas la peine de le lui montrer. Ça ne fait que renforcer une situation. Un enfant est mineur, un enfant est en situation de dépendance, donc c'est pas la peine d'en rajouter, quoi.
merci monsieur Laverne, à bientôt, merci.
Oui, avec plaisir.
RLP. Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3 aujourd'hui avec Yannick Vicente qui vient de nous proposer un nouveau livre sur la paternité avec des petits dessins. Yannick, vous êtes là ?
Oui, bonjour.
Bonjour, vous allez bien ?
Oui, tout va bien.
Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, dire qui vous êtes et quel est donc ce travail que vous offrez, que vous présentez aux autres ?
Alors moi, je m'appelle Yannick Vicente, je suis professeur des écoles à la base et je suis aussi illustrateur, plutôt connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de y.dessin. Et j'ai une page Facebook et une page Instagram avec chacune entre 62 et 63 000 abonnés.
D'accord.
Et je fais des dessins sur la paternité, en fait.
Et donc, vous avez fait un premier recueil qui est sorti quand ?
J'ai un premier livre qui est sorti en novembre, qui est une bande dessinée sur la paternité, donc.
D'accord.
Chez Le Duc, qui s'appelle Le Guide du Papa Parfait, mais qui essaye de l'être quand même.
D'accord.
C'est co-écrit avec Thibaut Marty. Et voilà, c'est une BD de 128 pages, avec des moments importants sur l'avant, pendant et après la paternité, quoi.
D'accord, c'est quelque chose que l'on trouve partout, dans les magasins, sur
oui,
Internet.
Oui, bien sûr.
D'accord.
On trouve ça partout. Et j'ai également réalisé un autre ouvrage avec les éditions Le Duc, qui s'appelle « Je suis papa, 28 jours pour prendre ses marques » et qui va concerner le nouveau congé paternité qui passe à 28 jours à partir du mois de juin. D'accord. Et donc ça, c'est plus un guide pratique qui va permettre de donner des clés au papa. Ah, parce que c'est pas forcément simple d'être un papa aujourd'hui, quoi.
C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, vous, ainsi, professeur des écoles, parce que vous êtes, je crois, à la base, instituteur, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous plonger dans la paternité, puis à l'exprimer via des dessins, des histoires ? Pourquoi ? Pourquoi la paternité ?
Bah, parce que... Après une période un peu compliquée, une séparation avec la maman de ma fille, je me suis retrouvé loin d'elle, en fait, géographiquement. Et
d'accord.
Du coup, ça a été pour moi assez cathartique de pouvoir dessiner ce manque-là, en fait. Et au lieu de... Enfin voilà, il y a deux voies possibles, soit me morfondre et être pas bien, soit faire ce que je savais faire, c'est-à-dire des dessins, et le traduire d'une façon un peu plus positive.
Bien
et
sûr.
En tout cas, c'est ce qui ressort de mes dessins, puisque aujourd'hui, je reçois des centaines de messages pour me dire c'est exactement ce que je vis, c'est exactement les moments qu'on partage avec mon enfant. Voilà, donc c'est un chouette retour.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on va dire à nos auditeurs qu'on s'était contactés, je crois, en 2015 ou en 2016, car je vous avais demandé d'illustrer le blog que je faisais à l'époque. qui s'appelait sospapa24.com, avant qu'on s'éloigne de l'association parisienne. Mais vous n'étiez pas forcément très disponible à l'époque. Mais bon, vous avez failli illustrer ce blog bien connu qui a rendu service à beaucoup de parents, en fait. Hein. Mmh. Et donc, par la suite, mais vous faisiez déjà, je crois, hein, des caricatures sur la paternité en 2017-2018.
Oui, c'est ça. Oui. Ouais, c'était vraiment la période où je commençais à... où ça commençait à marcher assez fort. Et du coup, c'est vrai que... en termes de temps et de disponibilité, c'est compliqué.
Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Surtout que là, signer chez Le Duc, c'est quand même bien.
Vous en avez vendu beaucoup ? C'est le groupe Albin Michel, donc.
Vous en avez vendu beaucoup ?
Pas mal, ouais. Ça fonctionne plutôt bien. Du coup, c'est pour ça qu'ils m'ont signé pour d'autres ouvrages.
Mais ah, en parallèle, donc des aussi, nouveautés qui vont arriver.
Ah, il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver. Mais je disais, en parallèle, je suis aussi illustrateur de livres pour enfants.
D'accord.
Et on a lancé, d'ailleurs, j'ai créé ma propre maison d'édition avec Papa Chouche, qui est un influenceur sur la paternité aussi.
D'accord.
Et on a sorti déjà deux ouvrages ensemble, dont et les deux ouvrages sont best-sellers avant leur sortie. C'est-à-dire qu'on a vendu le premier livre à plus de 19 000 exemplaires avant.
En précommande.
Avant qu'il soit, d'accord. En précommande.
Oui.
Et le deuxième livre, pareil, 17 000 exemplaires en précommande. Donc ça fonctionne plutôt bien aussi, le livre jeunesse. Donc il y a le lion qui avait perdu sa queue et le castor qui rêvait d'avoir un ami. Et il y a un troisième tome qui doit arriver l'année prochaine. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
RLP 102.3, toujours avec Yannick Vicente, qui est aussi également l'auteur du livre bien connu « Le lion qui avait perdu sa queue » avec Papa Chouche. Est-ce que vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît ?
Bien sûr, tout à fait. On a avec Papa Chouche, donc, qui est un influenceur sur la paternité, sur les réseaux sociaux, on a pris contact et on a créé ce livre ensemble qui est paru l'année dernière. Et en fait, on a fait un financement participatif pour le réaliser.
D'accord.
Parce que voilà, on s'est servi de nos réseaux sociaux et on a terminé premier sur la plateforme de financement participatif qu'on a utilisé en édition jeunesse, c'est-à-dire que c'est le projet qui a été le plus financé de la plateforme. Et on a ensuite prévendu plus de 19 000 livres. Donc en gros, ça veut dire que le livre avait déjà atteint le titre de best-seller avant sa sortie.
Ouais, tout à fait. Sur Ulule, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement.
D'accord. Je vois. Alors, quels sont les grands thèmes de ce livre ? Pourquoi est-ce qu'il a si bien marché avant même d'être sorti ?
Alors, parce que c'est un livre qui est à la fois rigolo pour les parents, puisque c'est un livre avec un double niveau de lecture, avec des allusions un peu rigolotes, et à la fois un livre qui parle de l'acceptation des différences. En fait, c'est l'histoire d'un lion qui se réveille et qui a perdu sa queue, comme son nom l'indique, et donc il va partir en quête de cette queue et voir à quel point, le fait de pas avoir sa queue, ça peut jouer sur sa confiance en lui et en même temps que c'est pas forcément sa queue qui fait de lui un lion incroyable.
D'accord. Et donc vous illustrez avec des dessins. On vous voit d'ailleurs. Il y a une photo de vous sur ulule.com.
Hein. Oui.
Et donc ce livre est uniquement une autoproduction ou vous avez réussi également à le placer dans des maisons d'édition ?
Non, en fait, on a créé notre maison d'édition avec
D'accord.
Papa Chouche, du coup,
oui.
Pour l'occasion. Et donc, le livre est disponible partout, en fait. Il est distribué partout.
D'accord, vous avez réussi à être distribué également, parce que produire un livre, c'est une chose, mais il faut réussir après à le mettre dans les magasins, pour réussir à le mettre dans les points de vente. Et là, vous avez fait comment ?
On est passé par un distributeur qui nous a contactés pendant notre campagne, en fait, en nous disant, on adore ce que vous faites. Nous, à la base, on n'est pas dans la distribution de livres, ils sont dans la distribution de musique, en fait.
Cool.
Mais par contre, on veut s'en occuper et on va s'en occuper comme il faut. Donc nous, on leur a fait confiance et en effet, ils gèrent très bien tout ce qui est distribution.
D'accord.
Donc voilà, et c'est une relation aussi de confiance maintenant, puisque du coup on leur fait confiance aussi sur le deuxième tome qui s'apprête à sortir.
Ok, donc là c'est la nouvelle du jour, vous avez un deuxième tome qui va sortir après l'ouvrage « Le lion qui a perdu sa queue ». Vous avez déjà le nom ?
Oui, il est déjà même terminé, il est parti en production. On a fait également un financement participatif et du coup, on a battu le premier livre sur la plateforme Ulule.
D'accord.
Et donc, en fait, il s'appelle Le Castor qui rêvait d'avoir un ami.
D'accord.
Et qui traite, c'est un livre qui traite sur du thème de l'amitié, en fait, et des difficultés des amitiés toxiques. Quand on est tout petit, en fait, c'est vraiment des livres pour ouvrir un débat après avec les enfants. Il va être accompagné en plus d'un projet pédagogique pour les enseignants, réalisé par Lutin Bazar, qui est une sommité dans le monde de l'enseignement pour tout le travail qu'elle fait. Donc ça, c'est vraiment un super plus. Et voilà, c'est l'histoire d'un petit castor qui cherche à rencontrer des amis et qui va traverser le monde pour essayer de voir jusqu'où, enfin voilà, quelle personne il peut rencontrer, quoi.
D'accord, ok. Okidoki, donc c'est vous au dessin et c'est Papa Chouche au scénario, où vous avez partagé les tâches comment? D'accord, très bien. Très bien, très bien. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. RLP 102.3, toujours avec Yannick, troisième partie de cette émission. Donc Yannick, vous me disiez que vous étiez extrêmement présent sur Internet et vous vouliez évoquer également le rôle des réseaux sociaux dans la façon de toucher votre public, je suppose, vos divers thèmes. Vous avez un Instagram, vous avez diverses choses?
Oui, j'ai une page Facebook qui s'appelle y.dessin.
D'accord.
Et j'ai une page Instagram également qui s'appelle y.dessin. Et voilà, c'est donc aujourd'hui grâce à ces réseaux sociaux que j'ai tous mes projets qui sont en route, en fait. Parce que on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir au niveau de la visibilité, au niveau des rencontres qu'on peut faire.
Vous êtes en direct avec votre audience, là, les gens viennent vous voir directement sans intermédiaire.
Exactement, c'est ça. Je suis en direct avec les gens et les gens sont toujours surpris d'ailleurs que je puisse leur répondre déjà aussi rapidement et surtout avec autant de facilité parce que c'est vraiment la communication 2.0, quoi.
Ah mais je confirme, moi j'ai posté un petit message là sur le Messenger pour demander si vous êtes disponible et puis vous avez répondu. Donc effectivement, ça fonctionne. Et vous avez du monde sur ces pages Instagram, vous m'avez dit, vous avez je crois plusieurs dizaines de milliers de personnes. Hein.
Sur Instagram, ouais, je suis à plus de 63 500 personnes et sur Facebook à 62 000 personnes. Ouais.
D'accord, et vous avez une relation particulière, je veux dire, il y a des gens qui viennent vous voir, qui vous avez des retours sur vos ouvrages, sur vos recueils.
Vraiment, c'est quelque chose d'assez incroyable, même pour moi qui suis à la base hyper timide, hyper avec un gros syndrome de l'imposteur qui me suit depuis des années.
Syndrome de l'imposteur, on va expliquer aux gens, vous avez peur de ne pas être digne de ce que vous faites en fait, c'est ça hein.
C'est ça, exactement. Oui. Puisque je suis complètement autodidacte et que j'ai jamais pris de cours de dessin. Voilà, aujourd'hui, j'arrive à en vivre et c'est quelque chose d'incroyable, quoi, pour moi. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. Saying how do you do? They're really saying I love you.
Alors vous êtes également instituteur, est-ce que vous exercez encore?
J'exerce encore, mais grâce au succès des deux petits livres qu'on a fait l'année dernière, je vais pouvoir me mettre à mi-temps à partir de l'année prochaine.
D'accord.
Suppléé par une autre personne.
Ça fait combien de temps que vous enseignez?
Ça fait 13 ans maintenant.
Donc vous avez 13 ans d'enseignement, une expérience personnelle avec des enfants, la séparation, des ouvrages, une communauté qui vous suit. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la façon dont nous gérons en France les ruptures familiales avec enfants?
Ah, c'est un sujet sensible, c'est très très compliqué.
Oui, mais vous l'avez vu, parce que je pense qu'en tant qu'institut, vous êtes au premier rang. Vous voyez, vous, vraiment, vous voyez ce qui se passe dans les familles quelque part.
Hein. Après, chaque cas est différent, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses. Il y a des choses très... très toxique qui se passe dans les familles avec enfants. C'est souvent les parents, ils se servent un petit peu des enfants comme d'un levier et de pression et ça crée des dommages un peu particuliers après.
Est-ce que ces conflits rentrent dans l'école?
Ça arrive. bien sûr, évidemment que ça arrive. On n'est pas épargné parce qu'on est dans une école. Hein. On doit gérer des parents qui essayent de prendre leurs enfants alors qu'ils n'ont pas le droit. Enfin, voilà, y a plein de choses à gérer.
Vous avez été formé à ça ?
Pas spécialement, non.
D'accord, donc vous vous débrouillez. Est-ce qu'il y a des instructions de l'éducation nationale, de l'inspection, pour vous dire comment il faut se placer, comment il faut réagir face à ces conflits qui font partie de la société, qui font partie du monde, en fait, hein.
Évidemment, il y a des règles. Il y a des règles qui sont définies par la loi. Et ensuite, il y a aussi le bon sens, j'imagine. Mais aujourd'hui, tous les conflits qui sont à gérer dans les écoles, c'est un peu ce qui fait que je prends un peu de la distance aussi avec l'éducation nationale et que je me lance un peu à corps perdu dans cette passion qui est le dessin.
D'accord. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez creuser un petit peu ?
J'ai passé une partie de ma carrière dans les quartiers nord de Marseille qui sont quand même un endroit avec des cas très particuliers et des choses à gérer qu'on retrouve pas forcément dans d'autres écoles ou en tout cas pas à ce niveau-là. Et du coup, je pense qu'il y a quand même un épuisement de la profession face à un manque de reconnaissance, face à un manque d'aide, face à beaucoup de choses qui sont très durs à gérer parce qu'on est censé gérer de l'humain mais avec des moyens très très compliqués. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants avec qui je discute qui ont le même ressenti, peut-être d'avoir l'impression d'être un peu abandonné et de pas être soutenu comme il faut dans ce métier.
Peut-être qu'on vous demande de faire plus que de l'instruction, en fait.
Clairement, on a une partie d'instruction, devant les enfants, mais on a aussi tout ce qui est, on fait de l'administratif, on a tellement de casquettes, quoi. On est psy, on est infirmier, et surtout sans formation, quoi. Parce que quand nous, on demande aux parents de se rendre chez un psychologue, souvent on se heurte à des refus, à des problèmes, et nous, on est obligé de trouver des solutions dans l'urgence. Même si on aimerait vraiment avoir du soutien de professionnels et de gens qui sont vraiment formés pour ça, on est obligé de gérer comme on peut. Et c'est compliqué, hein, vraiment. L'enseignement à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui me paraît vraiment très très compliqué. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Et les papas d'aujourd'hui, là, pour les enseignants, c'est les papas que vous avez vus devant vous durant 13 ans, comment ils sont aujourd'hui, en 2021, au 21e siècle ? C'est quelque chose qui me fait moi qui me fait vibrer parce que je vois de plus en plus de papas hyper investis avec leurs enfants et ça c'est quelque chose qui est très beau parce que on est en train d'aller vers des mentalités qui évoluent et c'est pour ça que je fais ce genre de livre aujourd'hui et que ça fonctionne parce que parler de la paternité c'est quelque chose qui se faisait beaucoup moins il y a quelques années et en tout cas beaucoup moins décomplexé. Voilà, aujourd'hui, on peut en rire, on peut donner des conseils à des papas. Dans mon prochain livre, par exemple, j'ai tout un chapitre qui parle de sujets divers et variés, mais par exemple de comment nettoyer un cordon ombilical, parce que voilà, c'est des formations qu'on ne donne pas forcément au papa. Après, il y a d'autres sujets comme le retour à la sexualité après l'accouchement, des choses que les papas ne se posent pas forcément et qui ont pourtant un réel intérêt.
Et que le petit dessin humoristique parfois peut aider justement à soulever, à envisager de manière plus fraîche.
Oui, ça donne à réfléchir, c'est ça. Ouais. C'est une autre manière de donner à réfléchir.
Bon, très bien. Mais écoutez, Yannick, merci beaucoup de nous avoir consacré ces 20 minutes. On vous suivra avec attention. Si vous avez un nouvel ouvrage qui sort ou alors un recueil, n'hésitez absolument pas. Et puis, pour tout le monde, donc, on va rappeler le lion qui a perdu sa queue, le castor qui cherchait des amis, et puis les deux recueils de dessins humoristiques.
Voilà, le guide du papa pas parfait, mais qui essaye de l'être.
Voilà.
Quand même. Et celui qui sort en « Je suis papa, 28 jours pour prendre ses marques ».
D'accord. Et donc, on vous trouve, on va bien répéter qu'on vous trouve sur Facebook, sur le pseudo, la page qui est
y.dessin au singulier.
y.dessin au singulier, voilà.
Et pareil sur Instagram, @y.dessin.
Eh bien, c'est parfait. Merci Yannick, bonne journée à vous, merci.
Merci beaucoup, une bonne journée. Yes, I think to myself, what a wonderful